Grégory Colas, cuisinier avec nous jusqu'à 11h. Bonjour Grégory.
Bonjour Grégory.
Bon, un fou de cuisine alors Grégory, il
paraît. Un passionné de cuisine, ouais. Petit-fils de boucher d'un côté maternel et petit-fils de cuisinière du côté maternel, donc tombé dans la gamelle tout petit. Bon. Même si ça se voit pas physiquement.
Non, pas du tout. Bon, j'ai pas le choix Grégory, on en parle ce matin de la foire de Tours qui a lieu dans quelques jours. Vous avez été vous-même exposant de la foire de Tours.
C'était des très très grands moments de vie pour ma part. Là, j'avais plusieurs stands sur dans le village, dont un où on faisait des babas au maître flambé. Voilà, donc ça, pour ceux qui ont connu ça, c'était un peu
des babas au
le maître de baba flambé.
Le maître de baba flambé. Qu'est-ce que c'est que le maître?
C'était des petits babas au rhum.
Ouais.
Et alors on les mettait sur une grande réglette et on les flambait au rhum et les gens prenaient les réglettes et buvaient le rhum après. C'était assez festif.
Ça a l'air coquin ça.
Ouais, c'était coquin et festif. C'est clair.
Et vous avez tenu 10 ans.
Et j'étais à peine 10 ans, mais j'ai pas tenu en fait. C'était un choix d'arrêter la foire à un moment donné où il y a d'autres choses qui se présentent et on a besoin de faire autre chose. Ouais.
Quand vous faisiez la foire, vous bossiez où alors? Précisément.
Dans le village gastro.
Oui, non, mais
pour faire ma petite présentation, oui. Moi je suis issu de la pâtisserie, je suis pâtissier chocolatier de formation, j'ai eu des boulangeries pâtisseries, j'ai surtout été connu pour ça, j'ai créé des petits babas au rhum en bocaux. Un peu décliné comme le rhum arrangé, donc on avait X parfums, fruits de la passion et tout en fruits frais.
Voilà. Donc de base, votre secteur de prédilection, c'était la pâtisserie.
Ouais, c'est la pâtisserie et la chocolaterie. Ouais.
Et donc vous n'avez pas ramené des babas au rhum?
Eh non, j'avais pas ramené, mais quelqu'un s'en rappelle là. Hein.
Ah, faut le dire tout de suite, ça, Grégory à la technique, qui a des souvenirs de baba au rhum.
Sur cette émission, on en a ramené
d'accord.
Déjà.
D'accord.
Et après la pâtisserie, qu'est-ce que vous avez fait?
Moi, je suis quelqu'un qui ne satisfait jamais de ce que j'arrive à réussir, en fait. Donc, j'ai eu des boulangers-pâtisseries, j'ai eu de nombreux salariés.
Toujours à Tours? Voilà,
toujours à Tours. Ouais, je suis un pur tourangeau, pur souche. Moi, je suis né à Tours, centre. Voilà, et j'ai grandi entre Saint-Cyr et Saint-Pierre, voilà.
Ah oui,
et donc,
un vrai de vrai.
Un gars du coin.
Un vrai de vrai, c'est ça. Et après, en fait, j'ai un petit problème, moi, c'est que quand je me suis rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose, faut que je fasse autre chose.
Vous lassez vite fait,
c'est pas facile, des fois, à se remettre en question tout le temps, mais en fait, moi, j'aime ça, quoi. J'aime ça, c'est des challenges, des défis, en fait, en permanence, quoi.
J'avais envie de dire, c'est un peu une qualité et un défaut à la fois. Une fois que c'est fait, hop, vous donnez un autre challenge, on passe à autre chose.
Ouais. Je crois que je me contente pas de ce qui m'arrive. Faut que j'aille voir plus loin. Et la cuisine, ça a toujours été, c'est mon ADN. Donc, j'ai toujours été un passionné de cuisine. J'ai la chance d'avoir plein de copains, restaurateurs de renom ici que tout le monde connaît. J'évolue avec eux. Ils m'ont fait aussi grandir parce que l'air de rien, faut se servir des gens qui ont des belles réussites dans ce domaine pour se faire accompagner. Mais j'aime ça. J'aime créer. J'aime me lancer des défis.
Et alors, défi qui a suivi la pâtisserie, c'était quoi?
Alors là, ça faisait en 2017, j'ai vendu mes affaires de pâtisserie.
Okay.
Donc depuis, j'ai fait beaucoup de traiteurs là.
Ok.
Et en fait, c'est posé la question de dire soit on s'agrandissait en tant que traiteur, soit on se lançait un nouveau défi.
Parce que vous n'êtes pas tout seul en tant que traiteur à bosser?
J'étais tout seul moi.
Oui,
j'étais
tout seul.
J'avais des gars sur les prestats, mais ouais. Sinon j'étais tout seul. Et en fait, c'est de dire j'ai 51 balais, il me reste 8 ans à faire. Et bon, se lancer un petit resto. Donc il y a des trucs dans les tuyaux. Pour l'instant, on peut pas trop dire, mais.
Ouais, on en parlera brièvement à la fin de cette émission. On fera un petit teasing, comme on aime dire, nous, en radio. Et là, justement, on va s'attarder sur le côté traiteur que vous faites en ce moment, avec un menu.
Non, alors, en ce moment-là, je suis en off parce qu'il a fait que je me fasse opérer des canaux carpiens. Du coup, j'ai pas repris le boulot derrière. Je me suis un peu arrêté. Je me suis donné un petit peu de marge et ça m'a permis de chercher quelque chose, à faire et trouver un endroit et un lieu qui me correspond, en fait.
Donc vous nous avez proposé justement un menu pour nos auditeurs. Ouais, ce matin, je vais donner les titres. Alors pour l'entrée, œuf mollet crémeux d'asperges vertes à l'ail des ours. Pour le plat, nous allons partir sur une ballotine de volaille déclinaison de petits pois. Et puis ensuite, on a les premières fraises de pays qui sont arrivées pour le dessert.
C'est ça.
Donc ça part sur un sablé breton à la menthe fraîche, crème chantilly, vanillé. Pour 4 personnes, un menu entier pour un coût total de 36 euros. Clément, qu'on va apprendre à faire ce matin.
Ouais, alors, en compagnie de Grégory Colas. C'est le prix de revient quand vous allez faire vos courses, donc voilà. Mais ça reste quand même ça reste quand même un beau menu.
Pour 4 personnes, on a moins de 10 euros par personne, ça reste correct.
Ouais, bon, faut rajouter une belle quille là-dessus parce qu'on ne peut pas manger ça.
Faut pas déconner. C'est parti pour votre menu en direct sur France Bleu Touraine entre 10h et 11h. Et vous, justement, qui nous écoutez, passez-nous un petit coup de fil, racontez-nous vos spécialités, les menus que vous aimez réaliser quand vous recevez de la famille ou des amis à la maison. 02 47 38 10 20.
Par exemple, je pensais à ça, Louis, comment vous faites l'œuf mollet? Vous parlez d'œuf mollet, comment vous le préparez?
Dernière, j'ai appris à faire un œuf poché. Je vous explique pas déjà comment ça m'a torturé l'esprit. J'ai pas pu encore me lancer à le tester pour de vrai. Ah,
d'accord.
Donc bon. On va déjà. Voilà, alors là, on va apprendre l'œuf mollet, cela.
C'est déjà pas mal.
Dans quelques minutes.
Bienvenue chez vous, Louis Raspail, Clément Cousin, sur France Bleu Touraine.
On se régale alors dans un instant après Slimane, mon amour, sur France Bleu Touraine.
Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a sens. Désolé si je te dérange, mon amour. Te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, j'ai pas. Toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux.
Aussi une déclaration d'amour comme Slimane, mais à la cuisine.
Bienvenue chez vous sur le grill.
À l'œuf mollet, à la ballantine de volaille ou aux premières fraises de pays, le menu choisi par notre cuisinier ce matin, Grégory Colas, en compagnie de Louis Raspail.
Grégory, c'est parti pour The First, j'ai envie de dire, pour notre entrée ce lundi matin. Œuf mollet, crème d'asperge verte à l'ail des ours. Première question, comment déjà est-ce qu'on fait un bon œuf mollet?
Un bon œuf mollet, c'est pas très compliqué. Hein. C'est le temps de cuisson qui va définir la caractéristique que le jaune soit si fondant. Donc, il y a un critère hyper important, c'est de le rafraîchir le plus vite possible en fait au moment de la cuisson. Donc, en fait, vous plongez dans l'eau chaude votre œuf, vous le laissez 3-4 minutes vraiment, et là, vous le refroidissez eau froide avec de la glace dedans.
Eau bouillante.
Eau bouillante. Vous le jetez dans l'eau bouillante, ouais. Enfin, vous le jetez. Vous le déposez dans l'eau bouillante, sinon, voilà.
Sinon, on l'éclate, l'œuf, là.
Ouais, vous le déposez dans l'eau bouillante. Et surtout, en fait, c'est la fin de cuisson. Il faut couper cette cuisson. Sinon, en fait, le blanc et le jaune vont continuer de cuire. Et vous allez avoir un œuf après qui sera un peu plus dur.
Ah, faut couper la cuisson de façon un petit peu brutale.
Voilà, c'est ça. Faut l'arrêter. Vous récupérez votre œuf. Vous le mettez dans un bol que vous avez préparé avant avec de l'eau froide et un peu de glace. Ça, hop, ça stoppe la cuisson tout de suite. Et puis le jaune, ça lui permet de rester très, très moelleux, enfin très liquide.
C'est ça. On va avoir un blanc qui va être bien cuit et on va garder ce jaune à l'intérieur, bien coulant, bien sympa.
C'est ça, exactement.
Et on n'a plus qu'à enlever la coquille.
Vous n'avez plus qu'à enlever la coquille avec parcimonie.
J'aime beaucoup cette expression, parcimonie. Avec cet œuf
mollet. C'est toujours un petit peu délicat.
Si on est gourmand, est-ce qu'on pourrait pas s'en faire deux ?
On peut en faire deux.
Pas déconner.
Mais bon, sur l'ensemble du plat, là, déjà, c'est pas mal.
C'est déjà pas mal. Ouais, bon, c'est pas mal. On part sur un. Pour accompagner cet œuf mollet, crémeux d'asperges vertes à l'ail des ours.
Ouais, alors je vais commencer par
l'ail des ours. Alors là, je fais les gros yeux déjà. Ouais.
L'ail des ours, c'est une petite plante qui ressemble un peu au muguet, en fait. C'est assez marrant. Et on trouve ça beaucoup dans nos lisières de bois, par chez nous. Voilà, alors moi, j'ai quelques coins où je vais en chercher. Voilà.
Monsieur ne veut pas divulguer ses coins.
Non, on peut pas divulguer non plus.
Nord-Touraine, Sud-Touraine, Ouest-Touraine, Est-Touraine.
On a la chance d'en avoir un peu partout quand même.
Vraiment?
Un peu, ouais, vraiment. Vraiment.
Voilà. Les Tourangeaux sont fans de cueillettes. Hein. On a eu beaucoup de monde justement dans l'émission. Bienvenue.
Des beaux champignons chez nous. Ouais. On a des belles choses à ramasser.
Beaucoup de cueillettes. Et quand on connaît en plus les plantes et les baies, il y a vraiment des trouvailles très sympas à faire dans la région.
C'est ça.
Beaucoup de chefs et de cuisiniers comme vous, justement, partent à la cueillette et vont se chercher des petites pépites.
Ça, ça a pas de prix. Partir une journée en champignons, ça vaut un marathon.
Ah, mais carrément.
Ça ressemble à quoi pour la reconnaître si on se balade en forêt?
C'est une fleur blanche très particulière qui est très ouverte en fait, qui est magnifique. Et en fait, on peut ramasser et la feuille et la fleur. Tout se mange en fait. Moi, je fais même avec les jeunes bourgeons. Je ramasse des jeunes bourgeons. Alors, ça prend du temps, mais avec les jeunes bourgeons, je fais des petits pickles. C'est incroyablement bon en fait. Je les mets dans un mélange vinaigre blanc.
Et ça peut se manger comme ça, directement à la cueillette.
Comme un cueillette, là comme une capre en fait. Hein, vous voyez, tac, esprit capre un peu, hop.
Je la mange,
la fleur, c'est super bon, la fleur comme ça.
Ouais. Je vous conseille quand même, Clément, allez-y avec un professionnel, on ne sait jamais. Allez-y avec un professionnel,
plus,
n'allez pas goûter n'importe quoi.
En plus, il faut le dire, parce
vous allez vous mettre en danger.
Il y a une herbe qui lui ressemble fortement et qui vous tue pas, mais qui vous rend bien malade quand même.
Voilà, donc c'est pour ça. On va faire attention alors. Allez-y avec Grégory, numéro en antenne. Donc, Grégory, vous allez cueillir votre ail des ours. Ouais. Et alors, on repart à la base. Crémeux d'asperges vertes.
Voilà. Alors, crémeux d'asperges vertes. Alors, l'asperge verte, là, on est en pleine saison. Hein. On démarre tout juste la saison de l'asperge. Donc, l'asperge verte, ce que je vous conseille, c'est vous l'épluchez à peine, vous enlevez juste les petits pics sur les chaque côté, là. Voilà. Et puis, vous allez la plonger dans l'eau bouillante
ouais.
également. Voilà. Soit l'eau bouillante, soit la vapeur. J'aime bien aussi la vapeur, en fait. Moi, personnellement, je l'ai tué à la vapeur.
J'allais vous dire, moi, à la verticale ou à l'horizontale, parce que sur l'asperge, je trouve qu'on attend plein de choses. Sur les temps de cuisson, qui ne sont pas les mêmes forcément à la base qu'au-dessus, au niveau de la tête.
Alors, le top du top pour cuire l'asperge, c'est de la cuire debout, la tête en l'air et la tête non plongée dans l'eau, en fait. La chaleur de l'eau va monter dans la tête et va la cuire. Sinon, la tête a une surcuisson et le bas de l'asperge n'est pas cuite.
Voilà. Conseil de grand-mère, vous voyez. Ouais, on a retenu ça.
Donc, lever l'asperge, c'est ce qu'il faut retenir. Là,
c'est ça, exactement. Conseil de grand-mère pour une asperge parfaite, lever l'asperge. Ouais. Et il ne faut pas
immerger la tête en l'air. Alors, bon, moi, je l'ai cuit vapeur, personnellement. Je trouve que c'est une belle cuisson. C'est très rapidement cuit, l'asperge. Il ne faut pas qu'il y ait de surcuisson. Dès que vous mettez la pointe du couteau et que ça transperce, là, hop, on coupe. Et pareil, on arrête la cuisson dans l'eau froide tout de suite pour éviter une continuation de la cuisson.
Est-ce qu'il faut l'éplucher, l'asperge
verte ne s'épluche pas.
On la lave juste, on enlève les petits picots de chaque côté,
et puis ça suffit. Voilà.
Ensuite, une fois qu'on a cuit notre asperge, on fait un assemblage directement?
Il faut la refroidir, ça c'est important, vous la refroidissez tout de suite. On se garde de côté les 4 cm de la tête, parce que c'est quand même le meilleur de l'asperge, on est d'accord. Et puis avec le reste, on va le couper en morceaux, on va le mettre dans un petit mixeur, ou thermomix pour ceux qui en ont. Voilà, et on va crémer légèrement. Petite crème fraîche, voilà. Et puis sel, poivre, bien sûr, pour assaisonner l'ensemble. Et ça, on va se le réserver. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'on peut le manger et froid et chaud. Donc le crémeux, on peut le faire soit froid, soit chaud. Donc quand il fait très chaud, c'est aussi très sympa de manger un truc frais qui réveille.
Carrément, voilà. Oui, donc on peut l'adapter en fait en fonction de la saison et du temps qu'il fait dehors, si on veut se faire une entrée chaude c'est ou froide. Ça. Donc après, on vient rajouter dessus l'ail des ours quand on est les...
qu'on a accueilli. Alors ça s'achète, oui,
ouais, on en trouve
dans le commerce, mais c'est quand même vachement plus sympa de prendre les enfants
d'aller
chercher ça au milieu des bois. Quoi.
Et nous avons une superbe entrée pour commencer cette émission, œuf mollet crémeux d'asperges vertes à l'ail des ours. Et ensuite, nous allons passer au plat avec ballotine de volaille, déclinaison de petits pois, Clément.
Bienvenue chez vous, Louis Raspail, Clément Cousin, sur France Bleu Touraine.
C'est ce qu'il y a à dîner alors. Hein.
Oh, c'est ce qu'il y a à dîner ?
Ou à déjeuner. Enfin,
vous... Ah, laissez-moi déjeuner en paix. Hein.
Allez, vous le dire. C'est ce qu'on va faire tout de suite alors sur France Bleu Touraine, en compagnie de Stéphane Escher.
M'embêtez pas pendant mon déjeuner.
Voilà, bon, je vous laisse tranquille, pas de problème.
Sinon, je vais être chafouin.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière et qu'attend. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café. Sur la nature humaine, c'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
Cette ballotine de volaille.
Oh oui. Bienvenue chez vous. Bon app, du goût est pas cher.
J'adore moi quand on prend le couteau et que la croûte est bien dure là. Oh, et dessous c'est bien fondant. Cette volaille.
Je vous préviens, Clément.
Oui.
Lundi, l'addition c'est pour vous.
Ah. Bon, après 36 euros, on peut diviser par
non,
deux.
Non, c'est pour non. vous. Moi, c'est le mardi.
Tout seul, d'accord.
Tous les jours en I, c'est vous. Et moi, c'est les jours en G,
d'accord,
c'est moi.
D'accord, je note ça. Grégory Colas, notre invité dans Bienvenue chez vous. Avec vous, Louis Raspail. Et il a un magnifique menu à nous proposer. On passe au plat.
Oui, ballotine de volaille, déclinaison de petits pois, Grégory. Ouais. Alors déjà, où est-ce qu'on achète notre petite ballotine de volaille?
Bah alors, il y a suffisamment de commerçants et de bouchers artisans.
Chez le boucher, je pense, c'est le mieux.
Bien sûr, c'est d'accord. Le mieux, bien sûr, on est d'accord. Et puis, soit vous lui demandez de vous désosser les suprêmes, sinon vous les faites vous-même, c'est pas très compliqué. Un petit coup de couteau le long de l'os, là, et puis ça part tout seul. Surtout, faut conserver la peau, parce que c'est elle qu'on va faire croustiller à la fin sur la cuisson.
Ah, bon, c'est le petit tips. Ouais, c'est le pensez petit, à bien conserver la peau, effectivement. Ouais, c'est ça.
Moi, ce que je vous conseille, c'est vous étalez votre suprême de volaille. La salez, poivrez pour l'assaisonner correctement. Vous la roulez dans du papier film. D'accord. Vous en faites un petit tube en fait. D'accord. Là, vous enlevez votre papier film, vous l'entourez de crépines. C'est ce qui va maintenir la
crépine.
Ouais, crépine.
Qu'est-ce
alors,
que
vous
c'est
achetez ça sur votre boucher. Hein,
la crépine.
Ouais, la crépine de porc en fait.
Non, non, c'est la coquine, Louis.
Ça fait une espèce de petit filet comme une toile à cabas un peu dans l'esprit, ouais. C'est ça. Et ça permet de maintenir la ballotine après en forme quand on va la braiser au beurre.
D'accord, mais voilà. Je suppose que c'est quelque chose qu'on voit en fait régulièrement quand on voit chez le boucher, mais c'est qu'on n'a pas l'habitude de poser un nom dessus, donc ça s'appelle la crépine.
Ça s'appelle la crépine.
La crépine.
Il y a un P comme papa.
Autant pour moi.
Donc là, vous l'enroulez de crépine et puis vous la remettez dans votre papier film et vous allez mettre ça au four à peu près à 70 degrés. Alors 1h30 à 70 degrés, ce qu'on appelle les cuissons basse température, mais ça va apporter quelque chose de très moelleux à l'intérieur avec une cuisson parfaite. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, au moment du service, vous les sortez et vous les poêlez, un peu de beurre, un peu d'huile dans une poêle et vous arrosez comme ça la cuisson pour rendre tout le tour bien croustillant.
Ah, donc on est sur une cuisson en deux temps en fait.
On est sur une cuisson en deux temps. C'est okay. Ça demande un petit peu de maîtrise, un petit peu de temps en fait. Hein.
Oui, mais si on s'y prend à l'avance.
C'est la base de la cuisine,
voilà.
C'est le temps.
Hein. Ouais, voilà. Tout à fait. On s'y prend à l'avance, on fait chauffer notre four, on fait la première étape au four et après on les arrose à la poêle, sympa quoi.
C'est ça, exactement.
Pour le côté croustillant.
Pour le côté croustillant.
Je commence à m'améliorer. Vous allez, je vais vous surprendre. Avec ça, déclinaison de petits pois.
Alors, bah, les petits pois, c'est pareil, hein, comme l'asperge, on arrive en pleine saison de petits pois. Alors, je sais que c'est un peu du temps à écosser, mais les petits pois frais n'ont quand même rien à voir avec ce qu'on peut trouver
en boîte
ou surgelé. Alors, le boîte, on oublie, mais le surgelé, c'est encore le moins pire, je dirais.
Ah ouais?
Voilà. Ah ouais, c'est clair. C'est meilleur en petit pois frais un petit pois surgelé est bien meilleur qu'en boîte.
Ah bah vous prenez ça.
Bah ouais, vous n'avez pas le jus qui est dedans.
Ah oui, effectivement, oui, quand on les
achète. Mais c'est souvent le cas d'ailleurs, Louis, hein, le surgelé idées reçues est bien meilleur souvent.
Bah déjà c'est meilleur parce que il y a pas de conservateur, il y a pas de sel, il y a pas de choses comme ça, hein, clairement, voilà, aujourd'hui, il y a pas de sucre, hein, parce que bien souvent dans les boîtes, bah vous avez aussi un apport en sucre qui est pas négligeable pour la santé. Quoi.
Et au niveau du prix, en plus, on s'y retrouve, en général, sur le surgelé. Donc ça aussi, c'est un avantage.
Ouais,
c'est
oui, parce qu'effectivement, une petite boîte de petits pois carottes doit être autour de 2,50 par là, si ce n'est 3, en fonction. Donc oui, forcément, sachez si la quantité en plus est plus conséquente, ça ne m'étonne pas qu'on s'y retrouve en termes de prix.
Et puis, on s'y retrouve surtout en termes de nutrition, parce qu'on n'a pas de sucre, on n'a pas de sel, on n'a pas de conservateur, ni quoi que ce soit.
Eh bien, vous m'en apprenez une belle, là, ce matin.
Petit pois, pourquoi petit pois, ça aurait pu être autre chose, non?
Ah mais bien sûr, mais après le petit pois, c'est parce que le petit pois frais, pareil, on arrive
la saison.
C'est le début là, c'est les tout débuts.
Ah, vous voulez vraiment être dans la saisonnalité.
C'est la base de la cuisine, ça. On mange pas des tomates au mois de décembre, quoi.
Ah, mais voilà, il y en a encore tout qui le font.
Mais bien sûr, et puis il faut aussi tout pour faire un monde. Moi, j'ai rien contre les gens qui le font. C'est pas le problème. C'est juste que profitons des saisons et de ce que nous offre la nature pour le manger au bon moment, quoi.
C'est clair. Et ces petits pois, comment on les cuisine?
Alors les petits pois, c'est le petit pois frais, il se cuit très très rapidement. Donc bon, à la française, on a les petits lardons, quelques feuilles de laitue dedans à la cuisson, mais c'est une cuisson très rapide, je dirais 3-4 minutes, voilà. Vous en prélevez, vous en gardez un petit peu des petits pois entiers, d'accord, et vous en prélevez une partie que vous allez pareil mettre au Thermomix, crémer pour faire une petite purée de petits pois en fait. Voilà. Alors là, c'est important le Thermomix, ou alors faut éplucher les petits pois.
Éplucher les petits pois, ça va être compliqué.
J'ai un copain restaurateur, vous mangez pas un petit pois non épluché chez lui.
Ah ouais.
J'ai le droit de dire son nom, je le dis, mais sinon.
Et en fait, il épluche les petits pois toute la nuit. Il ne dort pas, cet homme.
Petit pois par petit pois jusqu'à ce que.
Après, ça s'épluche assez vite en fait.
Vous pouvez dire son nom si vous voulez.
C'est Olivier Arlot.
Eh ben, on lui passe le bonjour, qui est actuellement du coup en train d'écouter l'émission en épluchant des petits pois. On termine notre plat très rapidement, Grégory, si vous le voulez bien. Donc on fait cuire nos petits pois simplement.
Ouais, vous les faites cuire simplement. Voilà, vous en prélevez une partie que vous allez mixer pour en faire une purée. Voilà, et après vous disposez une belle quenelle de purée dans l'assiette. Vous posez votre petite ballotine que vous avez passée au beurre, bien grillée dessus. le reste des petits pois que vous avez gardés entiers autour, et voilà, le tour est joué, un coup de moulin à poivre, et hop.
Et yes, c'est dans la boîte, c'est parti.
C'est ça.
On va se régaler. Et pour sublimer justement ce joli menu que vous nous proposez ce lundi matin, il y a les premières fraises de pays qui arrivent, et on va apprendre à faire un dessert avec ces jolies fraises. Et vous qui nous écoutez, si vous avez une petite recette à nous partager, 02 47 38 10 20.
Le jeu à deux balles sur France Bleu Touraine.
Alors, normalement, c'est moi, Clément Cousin, qui fait le jeu à deux balles, qui anime le jeu à deux balles. Vous savez peut-être pas, Grégory. Ouais. Bon, voilà, c'est un grand jeu.
Ce soir, désolé. Ah, le matin, je bosse.
Et là, aujourd'hui, c'est moi qui fais Clément Cousin.
Et c'est vous qui devenez Clément Cousin. Alors, je suis un peu plus bronzé que vous aujourd'hui, j'ai pris des couleurs.
Oui, monsieur est allé au ski.
Je suis parti à la montagne, fallait pas le dire, ça.
Vous avez ramené des cadeaux ?
Juste pour vous.
Oh, là, c'est gentil. Bah, déjà payé l'addition pour commencer.
Bon, Louis, qu'est-ce qu'on gagne dans le jeu à deux balles ?
Deux entrées pour le Futuroscope, ce parc de dingue, avec une quarantaine d'attractions. Vous le savez également, des superbes spectacles, des nouveautés. Alors, dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je vous expliquerai ça dans le détail. Chasseur Tornade, élu meilleure attraction par T-Awards, Objectif Mars, et bien sûr, des classiques Arthur, l'aventure 4D. Le principal, c'est surtout qu'on passe un bon moment ensemble, plein de rigolades. On se marre, c'est le début de semaine. On met le paquet dès 11h, jeu à deux balles, 02 47 38. 10-20 pour vous inscrire.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne conseil pour les laboratoires Vichy. Alors à quoi sont dues les taches qui apparaissent sur le visage ?
Eh bien c'est dû à la mélanogénèse, un processus naturel qui s'accélère avec l'âge et le soleil.
Et on peut corriger ces taches ?
Oui, et même les prévenir avec le protocole Lift Active B3 des laboratoires Vichy.
Comment ?
D'abord, on applique le sérum Lift Active B3. Mmh. Ensuite, la crème B3 jours SPF 50 pour protéger la peau des UV.
D'accord. Quels sont les effets ?
Eh bien, après 2 mois d'utilisation, les taches diminuent de 65% en moyenne.
Super.
Et en plus, les laboratoires Vichy innovent avec la crème nuit Lift Active B3 anti-tache qui est enrichie en niacinamide et rétinol pur. Mm-hmm. Résultat, au réveil, l'hyperpigmentation est corrigée et la peau est visiblement plus éclatante.
Parfait. Et où trouve-t-on Lift Active B3 anti-tache ?
En pharmacie, parapharmacie et sur vichy.fr.
Merci Fanny.
Étude clinique, mesure de la surface des taches brunes, 35 femmes, 2 mois.
On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Olivier Boulat, qui est éleveur à Bellevezay, en Lozère.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous.
Chez vous.
France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Touraine, ici, on parle d'ici.
Elles sont rouges, elles sont peut-être même un peu sucrées, avec un petit jus là.
Les fraises
de pays que l'on va déguster dans un instant. Louis Raspail, donc bienvenue chez vous. Avant ça, on va en Italie avec Julien Clerc. Elle voulait qu'on l'appelle Venise.
Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez-les donc bien au sérieux. N'essayez pas de trouver mieux. De trouver mieux. Sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Venise,
yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.
Je sais pas vous, lui, Raspail, mais moi je le vois bien sur sa moto en train d'écouter cette chanson. Julien Clerc, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Alors je parle de Grégory Colas, hein. Vous êtes là, Grégory, toujours.
Je suis toujours là.
Et vous n'êtes pas venu avec votre moto, mais avec votre t-shirt Harley Davidson. C'est pour ça que je parle de moto.
Ouais, c'est ça.
Fan de moto ?
Ouais, j'adore.
Vous avez plusieurs Harley ?
Non, j'en ai qu'une, mais c'est déjà pas mal, ouais.
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Bienvenue chez vous. L'addition, s'il vous plaît.
On est là pour faire connaissance aussi, quand même. Hein, Louis Raspail, ce matin avec vous, avec notre invité Grégory. Et on a un super dessert à vous proposer. J'en ai pas encore mangé d'ailleurs. Des fraises de pays.
Eh ben, vous êtes en retard. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ?
Je suis à la bourre ?
Ah bah ouais, un petit peu.
Ouais. Je sais pas, ça fait combien de temps là ?
Deux semaines, trois semaines de retard.
Ça fait une semaine et demie.
Ouais, une semaine. Voilà. Ça va,
petit retard.
Je m'emballe, excusez-moi.
On a des gros producteurs là, sur le long de la Loire, là, sur Chouze et sur Loire et tout. Là,
bon. Voilà. Il faut que je m'y mette.
Bon, les fraises sont là, maintenant.
Ouais, c'est ça.
Faisons un bon dessert avec ces bonnes petites fraises.
En fait, je vais vous expliquer comment faire une belle petite chantilly sympa maison.
Une chantilly maison.
Voilà. Ouais, vous allez mettre,
On peut y arriver.
Vous allez mettre de la crème fraîche. 35% de la crème liquide, hein, 35% de matière grasse, c'est hyper important, parce que c'est la matière grasse qui va faire que votre chantilly va être belle se tenir et avoir une bonne consistance. Vous allez mettre ça avec 20 grammes de sucre la veille, et puis vous allez gratter dedans une demi-gousse de vanille de Tahiti ou de ce que vous voulez. Attention, la vanille gousse, quand vous l'achetez, il faut qu'elle soit moelleuse et non pas toute sèche, parce que quand elle est toute sèche, il n'y a plus d'arôme dedans.
La vanille, on peut la trouver en supermarché,
ouais,
en primeur
aussi, sous les Halles de Tours aussi. Ouais, chez Dar Exotique, là, ils ont des belles gousses de vanille aussi.
Louis, je suis sûr que vous êtes du genre à prendre le goulot là, de la chantilly et la manger comme ça.
Vous insinuez que je suis un gourmand ?
Vous insinuez bien.
Alors moi, je vous conseille de faire ça la veille, de laisser au frigo, et le lendemain, quand vous allez sortir du frigo, là, vous allez la passer au batteur, au fouet, alors à la main pour les plus courageux, ou un petit kitchenette, s'il y en a comme ça, voilà.
Ok, on fait notre chantilly nous-mêmes, c'est décidé.
Ouais, c'est meilleur, ça n'a rien à voir. Voilà.
Non, ben je veux bien
on
vous
peut même rajouter une petite cuillère de mascarpone pour ceux qui veulent à l'intérieur, c'est aussi ça. Ça apporte un peu de gras supplémentaire, mais qu'est-ce que c'est bon gras, quoi.
Ah, vous me donnez l'envie justement de faire la chantilly soi-même. Voilà. Vraiment.
Avant, on a du temps avant l'été. Hein,
c'est vrai
que t'as mis
ça
sur la plage.
Ça arrive vite, ouais.
Si t'as
prêt,
Mathieu.
Mais Louis, tout jeune, il y pense, lui.
J'y pensais, vous savez. Allez, c'est parti, chantilly, nous avons nos fraises. Ensuite, sablé breton.
Voilà, sablé breton. Alors, je vais vous donner une petite recette, on va essayer de faire assez vite. Vous mettez tout dans, on ne se prend pas la tête, on met tout dans une petite cuve de batteur, là, un petit kitchenette ou quelque chose comme ça. Vous mettez 175 g de farine, 100 g de sucre, ou moitié avec cassonade, donc 50 de sucre, 50 de cassonade. Vous mettez 100 g de beurre salé, un sachet de levure chimique, 3 jaunes d'œufs, et vous allez mettre là-dedans 35 g de feuilles de menthe haché au couteau très fin. C'est important, ça, c'est pareil, vous mettez ça dedans, et en fait la menthe, vous avez ça une nuit au réfrigérateur dans du papier film, la menthe va diffuser son parfum dans le sablé breton, ce qui est assez sympa, ça apporte vachement de fraîcheur une fois que vous l'avez cuit. Donc vous faites ça la veille, vous laissez toute la nuit, le lendemain vous l'étalez, et vous faites cuire vos sablés bretons sur une plaque au four une quinzaine de minutes à 170 degrés à peu près.
Et là on a un super dessert.
Et là vous avez un super sablé breton, vous l'émiettez, quelques fraises dessus, alors dans une petite coupelle, vous émiettez votre sablé breton, quelques fraises, la chantilly avec une belle poche, une belle douille, quelques fleurs de menthe, quelques feuilles de menthe en déco là-dessus, et puis bah voilà, le bonheur est dans le pré.
Ouais, faites-vous plaisir avec les premières fraises, ça c'est une super idée de dessert. On a fait un menu complet en votre compagnie, Grégory Colas, ce matin sur France Bleu Touraine. Quel plaisir, on s'est franchement régalé.
Ouais, merci pour votre accueil, c'est cool.
Quand est-ce que vous ouvrez votre resto ?
Alors c'est dans les tuyaux.
On attend là, non, franchement.
Voilà.
Vous reviendrez.
Avec plaisir.
Ça sera un petit peu plus précis. On peut teaser juste le nom ou on garde secret pour l'instant.
Les Bicurins Passionnés, est-ce que ça va rester?
Yes.
C'était mon nom quand j'étais traiteur et je vais le garder. Voilà, je suis aussi connu comme ça avec ce nom-là. Donc
ça sonne très bien. Et on a hâte justement de pousser la porte de l'épicurien passionné.
Merci beaucoup.
À très bientôt, Grégory.
Merci.
Ciao, ciao. Belle semaine à vous et bonne journée.
Grégory, merci à vous. Louis Raspail, dans un instant, notre reportage environnement. Vous le savez, Louis, pendant ses vacances, on fait des portraits environnement, donc avec des amoureux de nature. On sera avec Renaud Baeta, qui est tombé tout petit amoureux des papillons en maternelle.
Oh.
Peut-être que ça chouette. Vous rappelle des choses, vous aussi. Est-ce que vous jouez
moi,
quand vous étiez petit?
Beaucoup. Je oisiftais énormément étant petit. Je foutais rien.
Ouais, comme tout le monde, en fait, hein, je crois. On fait ce rendez-vous juste après Néa Somsaï sur France Bleu Touraine. Néa Somsaï sur France Bleu Touraine.
Bienvenue chez vous jusqu'à 11h sur France Bleu Touraine.
On va faire la rencontre d'un monsieur qui est tombé amoureux des papillons quand il était en maternelle. Plus de temps à perdre, les portraits pendant les vacances avec vous, Isabelle Dorso, vous nous proposez de faire connaissance avec ces personnes qui s'engagent ou agissent au quotidien pour notre planète et aujourd'hui encore un passionné de nature.
Passionné de nature, je pense que c'est un tout petit mot par rapport à la réalité. Nous sommes en compagnie de Renaud Baeta, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes chargé de mission biodiversité à l'association naturaliste Caudalis, en Touraine. Comment s'est noué ce lien avec la nature? Est-ce qu'il est ancien et profond?
Alors oui, j'avoue que depuis tout petit, je suis vraiment passionné par tout ce qui m'entoure. Je me rappelle, mon premier amour dans la nature, c'était les papillons, et j'étais en maternelle. Donc voilà, j'avais déjà un filet et un livre d'identification de papillons que j'ai toujours d'ailleurs.
Ça a commencé avec les papillons, ça a continué comment alors ?
Ça a commencé donc avec les papillons quand j'étais en maternelle, et puis après, dès la primaire, je me suis pas mal passionné pour les oiseaux. C'est vrai que j'avais un papa qui regardait pas mal les oiseaux aussi, et du coup, quand j'ai été suffisamment grand pour prendre des jumelles, voilà, j'ai eu une passion pour les oiseaux et qui me dure toujours.
Les papillons, les oiseaux, pour l'instant, on est dans tout ce qui vole.
Oui, mais maintenant, je m'intéresse aussi aux libellules. Bon, c'est vrai que ça vole aussi. Non, mais et aux chauves-souris, ok, ça vole. Mais non, je m'intéresse à pas mal d'autres choses.
Qu'est-ce qui motive, en fait, tout ça, cette démarche ?
C'est vraiment le plaisir de comprendre aussi, en fait, voilà, tout ce qui nous entoure. En fait, tout le vivant qui est autour de nous. Et moi, je trouve ça assez magique, en fait, de pouvoir, comme ça, se promener dans la nature et on prend conscience de ce qu'on connaît.